Drive to Zero, le salon européen des solutions pour le déploiement des mobilités décarbonées, les 2 et 3 juin 2026 à Paris Expo, Porte de Versailles, sur Radio Immo et Radio Territoria.
Radio Immo et Radio Territoria qui suivent depuis deux jours maintenant ce salon Drive to Zero à Paris Porte de Versailles. Sur notre plateau, Patrice Moranda, adjoint au directeur du département au CEREMA. Bonjour Patrice Moranda.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Le CEREMA, je rappelle rapidement, le CEREMA, le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, un établissement public français placé sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de la Cohésion des territoires.
Et des transports.
Et des transports, bien évidemment. Le CEREMA, qui est souvent présenté comme le bras technique et scientifique de l'État et des collectivités territoriales sur les grands enjeux d'aménagement durable des territoires. CEREMA qui est aussi partenaire du salon Drive to Zero et qui défend une approche systémique de la mobilité décarbonée associant infrastructures, usages, aménagement du territoire et innovation. J'ai tout bon jusque-là ?
Oui, c'est effectivement un rôle d'expert et de référent, notamment pour aider les territoires à faire face aux défis climatiques.
Patrice Moranda, vous apparaissez également comme contact technique et membre du jury des prix de l'innovation de ce salon Drive to Zero. Alors, le CEREMA, je le disais, accompagne depuis plusieurs années les collectivités dans la transition des mobilités. Avez-vous le sentiment qu'en 2026, les territoires sont réellement entrés dans une logique d'action ou est-ce qu'on est encore dans une phase d'expérimentation ?
Oh non, on est déjà dans l'action dans de nombreux territoires. Alors, 2026, c'est une année particulière puisqu'il y a un renouvellement des instances municipales et communautaires, et que forcément il y a toujours un effet de phase avec les mandats municipaux et intercommunaux, et donc il y aura une part d'expérimentation pour les nouvelles équipes, des actions qui seront prolongées, d'autres qui seront nouvelles. On est toujours dans des cycles, mais à chaque fois on progresse un peu plus quand même dans des actions en faveur d'une mobilité et d'une mobilité décarbonée notamment.
Le message porté par le CEREMA ici sur ce salon Drive to Zero est très clair. Il n'existe pas une solution unique pour décarboner les transports. Pourquoi est-il aujourd'hui essentiel d'avoir cette approche globale mêlant infrastructures, usages, urbanisme et nouvelles mobilités ?
Mais c'est essentiel parce qu'on doit agir vite et efficacement. Et pour ça, il faut forcément qu'on s'adresse à tous les leviers. Alors, les leviers de décarbonation des mobilités traditionnelles, ils sont au nombre de 5. C'est surtout la réduction de la demande de mobilité. Ça passe par plusieurs outils. C'est le remplissage et une meilleure occupation des véhicules. Ouais. C'est le report modal. C'est une efficacité énergétique. Et puis les émissions. Et tout ça, on doit agir en même temps et avoir un bouquet de solutions. C'est particulièrement vrai dans les mobilités de zones peu denses où certaines solutions urbaines ne sont pas réplicables en tant que telles.
Et ça complique les choses ou au contraire ça permet d'avancer un peu plus vite en tout cas ?
Ça permet d'avancer et surtout de faire avancer certains sujets quand d'autres se heurtent à des difficultés pour que globalement on arrive à obtenir les objectifs. Il faut rappeler que 30% des émissions de gaz à effet de serre en France sont liées au transport. Oui. C'est de loin le premier secteur et le seul qui n'a pas vraiment réduit ses émissions depuis 1990. Donc il y a urgence maintenant à franchir un cran dans les résultats qu'on obtient.
Alors justement, on parle beaucoup de véhicules propres ici, notamment à Drive to Zero. Mais finalement, la vraie question n'est-elle pas aussi celle de l'organisation des déplacements et de l'aménagement des territoires dont vous avez...
Alors, c'est bien évident et c'est évident à toutes les échelles. C'est-à-dire que quand on parle de réduction de la demande de déplacement, il ne s'agit pas d'empêcher les gens de se déplacer, il s'agit de faire en sorte qu'ils en aient moins besoin. Mmh. On peut jouer sur... Alors, en ville, c'est aussi la ville du quart d'heure, la proximité des services divers qui peut faire en sorte qu'ils s'y rendent à pied ou à vélo. Ça peut être aussi le télétravail qui réduit la demande de déplacement s'il est intelligemment conçu et pratiqué. Il y a des tas de choses comme ça. Et même en milieu rural, on peut arriver à une organisation de l'urbanisme qui, par exemple, se structure autour des axes forts de déplacement, des gares, des lignes de transport, et qui évite, là encore, de trop grands déplacements en voiture qui sont indispensables dans certaines zones.
Tenir compte, en général, des usages qui sont pratiqués sur l'ensemble des territoires.
C'est comment ça.
Tenir compte des usages qui sont pratiqués
sur l'ensemble des besoins.
Et des besoins.
C'est toujours important. C'est étudier les besoins des gens pour pouvoir trouver des solutions adaptées, concerter aussi avec eux, parce que les décisions sont d'autant plus efficaces si elles sont comprises, acceptées, partagées par les gens et qu'ils aident à leur mise en œuvre. et puis évaluer. Oui. Et se donner le droit à l'expérimentation. C'est-à-dire, on essaye une solution avec une possibilité d'ajustement si ça n'a pas tout à fait marché comme on le pensait. C'est très important aussi.
Ça, c'est, ouais, j'allais vous dire, ça, c'est quelque chose d'essentiel,
ah, oui,
l'expérimentation.
Oui, oui. Surtout que maintenant, les contraintes budgétaires sont telles qu'on ne peut pas se permettre des erreurs irréversibles. Donc, il faut absolument, ça ne veut pas dire être toujours dans la prudence et ne jamais rien engager, mais au contraire, se donner un droit à l'expérimentation. On pourrait presque parler de droit à l'erreur, oui, mais en tout cas, et pouvoir ajuster en concertation avec les gens dont on vérifie les besoins et la réponse à ce qu'on leur propose.
Alors, ça travaille vraiment conjoint avec les élus, hein, justement, sur les territoires. Le CEREMA, donc, on le disait, qui travaille énormément avec les collectivités locales. Quelles sont aujourd'hui les principales difficultés que rencontrent les élus lorsqu'ils veulent accélérer la transition des mobilités sur leur territoire?
Alors, bien sûr, j'ai évoqué les difficultés budgétaires qui ne vont pas s'éteindre et qui limitent quand même les capacités d'action. Il y a aussi, il ne faut pas se le cacher, une sensibilité très forte et compréhensible des habitants à leur autonomie de déplacement et à leur capacité à se déplacer en voiture. Et ce qui fait qu'ils ont parfois tendance à réagir un peu vigoureusement s'ils ont le sentiment que des mesures visent à les contraindre. Donc il faut qu'on puisse accompagner tout ça et qu'on leur offre des solutions. On ne peut pas dissuader les gens de se déplacer s'ils n'ont pas des solutions de repli. Sur la motorisation des véhicules, qui ne dépend pas tellement des élus locaux, mais de tout un contexte global, il faut qu'on arrive à ce que, grâce à un marché de l'occasion, grâce aux progrès techniques, les solutions de motorisation électrique soient satisfaisantes pour les gens. L'avantage qu'on a en milieu rural, c'est qu'il y a quand même une grosse part d'habitat individuel dans lequel la recharge à domicile est possible. Et puis la recharge sur le lieu de travail aussi. Donc ça, c'est un frein qui est plus présent en ville, mais qui, en milieu rural, peut être combattu. Donc il reste à se convaincre que on ne contraint pas, mais qu'on aide. Il peut y avoir des primes à l'achat, il peut y avoir des facilitations. Et puis il y a aussi un partage de l'autopartage, du covoiturage qui permet de réduire les frais. Tout ça, c'est des leviers sur lesquels il faut agir. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas braquer les gens si on veut que des solutions fonctionnent.
On oppose souvent les milieux urbains et les milieux ruraux, les territoires ruraux. Mais on a l'impression quand même, moi j'ai ce sentiment depuis deux jours ici à Drive to Zero, qu'en milieu rural, finalement, on avance peut-être tout aussi vite, si ce n'est peut-être un peu plus vite, par les expérimentations que vous évoquiez justement.
Bah, disons qu'on peut, mener, on y a une proximité avec le citoyen, avec l'habitant, qui permet d'affiner un peu des solutions, de les tester à moindre coût, avant éventuellement de les généraliser. Ça, c'est un atout. À côté de ça, il y a moins d'économie d'échelle possible. Oui. Donc, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Mais les milieux sont beaucoup plus imbriqués qu'on le pense. Il n'y a pas les urbains d'un côté, les ruraux de l'autre. Il y a énormément de ruraux, et même de plus en plus, qui travaillent en ville, qui connaissent la ville. Et c'est bien un des grands défis auxquels on a à faire face, de faciliter ces déplacements du périurbain vers l'urbain sur des modes décarbonés, avec notamment les services express régionaux et métropolitains et les rabattements vers ces services forts.
C'est ça la difficulté, c'est d'essayer de réussir cette transition écologique sans créer de fractures supplémentaires entre métropole et territoires ruraux ou périurbains.
Ah ben oui, de toute façon, dans un pays qui malheureusement semble avoir tendance un peu à se fracturer par moment, il ne faut pas qu'on ajoute un motif supplémentaire. Et il faut vraiment que les gens aient le sentiment qu'on recherche des solutions globales qui les concernent toutes et tous, et qu'on fait en sorte de leur faciliter la vie tout en préservant l'avenir de leurs enfants grâce à des actions qui ont un vrai impact sur le climat, sur l'environnement, sur la qualité de l'air, etc.
Vous qui avez une vision globale du territoire au CEREMA, est-ce qu'il y a des régions de France où on avance plus vite sur ces questions de mobilité ?
Non, on ne peut pas généraliser les choses. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses intéressantes partout.
Oui.
Quand on parle de, par exemple, d'une solution comme l'autopartage,
si qui vous
est
avez
très
des
intéressante,
exemples, oui.
L'autopartage, c'est une solution intéressante et qu'on dit réservée quand même peut-être au milieu urbain parce qu'il faut des flux importants. Etc. Il y a des parcs naturels régionaux dans les Causses, le Pilat, etc., qui ont mené des actions sur l'autopartage et des actions qui fonctionnent. Et de même que les véhicules à assistance électrique, les vélos à assistance électrique, c'est une innovation qui marche, y compris en milieu rural, quand on la soutient un peu. La communauté Bugey Sud, par exemple, qui est vraiment la pointe sud du croissant du Jura, dans l'Ain, aux limites de la Savoie et de l'Isère, a mené tout un bouquet de solutions. C'est transport collectif, c'est autopartage, covoiturage, mais y compris les vélos à assistance électrique, et ça marche. Donc, on peut faire des choses partout, mais ça suppose un réel effort d'explication, parfois d'investissement, d'incitation aussi. Mais ça bouge un peu partout, inégalement, mais il n'y a pas de milieu qui s'y prête plus que d'autres.
Et vous, au CEREMA, vous permettez justement cet échange de bonnes pratiques?
Mais on fait en sorte, ce qu'on fait beaucoup au CEREMA, c'est qu'effectivement, quand des collectivités veulent expérimenter quelque chose de nouveau, on les réunit dans un groupe de travail, on fait en sorte d'animer ce groupe, de les accompagner individuellement dans leurs actions et aussi de les réunir collectivement, d'en tirer des enseignements qu'on peut diffuser à d'autres après. C'est quelque chose qui est apprécié par elles et toujours intéressant pour nous comme pour elles.
C'est particulièrement intéressant, hein. C'est motivant aussi. On vous sent motivé,
oui,
vous, Patrice, parce que justement, c'est vrai qu'on vit une période de transition, je crois qu'on peut dire ça, et que ces idées qui viennent un petit peu partout, ça donne envie d'aller encore plus loin.
Mais tous les acteurs de ce sujet-là sont motivés, c'est vrai, des élus locaux, des partenaires associatifs, des entreprises, et puis de mes collègues et moi au sein du CEREMA et dans tous les opérateurs publics qui accompagnent ces changements.
CEREMA, donc très impliqué également dans l'organisation de ce salon Drive to Zero. Vous avez d'ailleurs participé, je le disais au début de l'entretien, au jury du prix de l'innovation, oui. Drive to Zero. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus aujourd'hui, vous, Patrice, dans l'innovation territoriale?
Ce qui m'impressionne le plus, je dirais, c'est le fait d'oser, de ne pas s'en tenir à des solutions toutes faites, mais d'essayer d'imaginer des choses nouvelles. Dans la mobilité partagée en milieu rural, il y a l'autopartage, il y a le covoiturage. Ouais. Et nous, on a suivi avec la fondation Massif, hein, de l'assureur, ce qu'on appelle le transport d'utilité sociale, qui est quelque chose qui est encore un peu nouveau. Ça veut dire que ça consiste à mobiliser des bénévoles qui, avec leur véhicule personnel, transportent des personnes qui n'ont aucun moyen de déplacement, des personnes locales qui sont en difficulté, qui n'ont aucun moyen de déplacement, avec une organisation modeste, mais qu'on met en place autour de ça pour sécuriser les choses, les organiser. À un moment donné, on se dit, on ose cette solution-là, et là où c'était tenté, ça marche plutôt bien et ça répond à un vrai besoin sans que ça ait une ampleur phénoménale. Voilà, c'est l'exemple de petites choses qui font avancer le quotidien.
C'est extrêmement intéressant, effectivement. Mmh. Et puis on s'aperçoit en vous écoutant que y a plein d'idées partout, quoi.
Oui, tout à fait.
Un grand merci d'être venu représenter le CEREMA aujourd'hui sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes adjoint au directeur de département au CEREMA, Patrice Moranda. Merci beaucoup.
Merci.
Drive to Zero, le salon européen des solutions pour le déploiement des mobilités décarbonées, les 2 et 3 juin 2026 à Paris Expo, Porte de Versailles, sur Radio Immo et Radio Territoria.